police, à l'aide de la télédétection par satellite au laser, le fameux LIDAR, on met au jour des résultats fascinants sur un site, Siam Chaud des Crotenets dans le Jura. Les études qui ont été menées après un long combat, il faut le dire, montrent avec la plus parfaite exactitude les travaux effectués par l'armée de César lors du siège d'Alésia. Ainsi donc, plus de 2000 ans plus tard, on aurait retrouvé le lieu de la bataille qui marque quand même les débuts de notre histoire. Seulement voilà, il existe un autre site. Un site dit officiel, celui-là, en Bourgogne, à Lys-Saint-Rennes. Et c'est ce site que les autorités entendent privilégier. Et ce, depuis Napoléon III. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ce genre de débat? Pourquoi est-ce qu'Alésia est-elle si importante? Et puis d'abord, c'est quoi Alésia? Aujourd'hui, sur Hérodote.net, les batailles d'Alésia. Alors avant d'arriver à la bataille la plus récente, celle qu'on vit actuellement, il faut quand même revenir aux sources et revenir prendre notre machine à remonter le temps et revenir plus de 2000 ans en arrière, en l'an 58 avant notre ère, parce que si on veut parler de la bataille de 52 avant notre ère, il faut quand même revenir et la placer dans son contexte intégral. Alors on va planter le décor. La République romaine est en crise à ce moment-là et elle voit un pacte se former entre trois grands personnages, Pompée le Grand, le riche Crassus, et le fameux César, le dandy César. C'est ce qu'on a appelé le triumvirat. Leur idée, si vous voulez, c'est un peu de se partager le pouvoir sur le dos du Sénat. Et à cette époque, la République romaine dispose d'un très grand territoire dans la Gaule que nous connaissons, la France d'aujourd'hui, dans le sud, ce qu'on appelle la Provincia ou la Narbonnaise, une zone qui va s'étendre quand même de Toulouse aux Alpes. C'est un énorme territoire. En 58, donc, le Sénat, qui craint l'ambition de César lui-même, va lui octroyer ce qu'on appelle un imperium, c'est-à-dire les pouvoirs militaires en Gaule cisalpine, en transalpine et en Illyrie. Vous avez compris, ils essayent de l'éloigner de Rome. Et lui, César, va y voir à ce moment-là une opportunité, celle de la gloire militaire. Or, avant même qu'il ait eu le temps d'arriver en Narbonnaise, il est sollicité par un peuple celte, les Éduins, pour intervenir contre les Helvètes, qui veulent aller en Saintonge. C'est un peu l'histoire d'un chien dans un jeu de quilles. S'ils passent, ils vont mettre un bazar sans nom. Alors on va revenir un instant sur ce peuple, les Éduins, avant de commencer. Parce que, à la limite, j'ai appelé cette émission « Les batailles d'Alésia », on aurait presque pu dire « Les Éduins et les Germains contre la France ». C'est quelque chose d'incroyable, ce peuple des Éduins. César lui-même les qualifie de « frères et de même sang ». En effet, au 1er siècle avant notre ère, il y a eu une alliance avec le Sénat romain et les Éduins qui sont appelés les frères de la République. Ce sont, si vous voulez, les plus grands alliés des Romains en Gaule. Ils sont très importants pour notre histoire. Pourquoi ? Leur territoire, c'est quoi ? C'est le Nivernais et le sud de la Bourgogne. Leur ville principale, ne l'oubliez pas, Bibracte. Alors on revient à notre histoire, on revient à 58 avant notre ère, les Éduins appellent donc César, les Éduins sont aux portes de la Provincia, aux portes de la Narbonnaise si vous voulez. Donc ils sont les amis les plus proches, les alliés les plus proches, ils appellent César au secours. Pourquoi ? Parce que les Helvètes, donc les Suisses si vous voulez d'aujourd'hui, veulent aller jusqu'en Saintonge et donc traverser des populations, traverser des espaces, traverser des pays qui ne veulent pas voir passer les Helvètes. César intervient donc en Gaule, sans perdre une minute, il va faire creuser des fossés le long du Rhône, mais les Helvètes arrivent malgré tout à franchir la Saône, et César doit les poursuivre jusqu'à Bibracte, la fameuse ville la plus forte, la capitale des Éduins, si vous voulez, proche de l'actuel Nevers, on pourrait dire que c'est le Mont Beuvray, pour vous éclaircir un peu mieux. Et il va les renvoyer dans leur région d'origine. Mais entre-temps, vous savez, mon expression favorite, la nature a horreur du vide. Eh bien, les farouches germains dariovistes ont pénétré en Bourgogne, ils ont profité du désordre général, si vous voulez. César va être obligé d'aller jusque là-haut, et même d'aller au-delà du Rhin. Il va les renvoyer chez eux, il va passer le Rhin, et à l'approche de l'hiver, il va suspendre les opérations et se replier en Gaule cisalpine. Mais c'est la première fois que les Romains passent le Rhin, c'est la première fois que les Romains passent la Provincia finalement et interviennent dans les affaires gauloises, dans les affaires celtes. Du coup, ils laissent une armée importante, Et il revient l'année suivante, en 57 avant notre ère. Je vais passer rapidement sur ce qu'on appelle la guerre des Gaules, des Bello Gallico, ce sera les commentaires de César, ce qu'il a écrit plus tard. Il mène une deuxième campagne, je vais aller très vite, pour soumettre les peuples de Belgique au nord de la Seine. Alors je vous passe, hein, les Suessions de Soissons, les Bellovaques de Beauvais, les Ambiens d'Amiens, les Nerviens du Hainaut et les Éburons. À Rome, le Sénat commence à être un peu enthousiaste. Il va même décréter 15 jours de supplication en remerciement aux dieux. Et il va profiter, Jules César, de ces hauts faits pour rencontrer à Lucchèce ses associés, Crassus et Pompée, avec lesquels ils tiennent donc Rome en respect. Le triumvirat, si vous comprenez, est affermi. Si vous voulez plus d'informations sur la guerre des Gaules, proprement dite, sur Hérodote.net, vous avez un dossier complet dessus. La troisième année, en 56 avant notre ère, toujours, César va aller lancer une flotte contre les Vénètes, Vénètes et Vannes, dans le golfe du Morbihan. La même année sont soumis les peuples aquitains. Vous voyez la plus grande partie de la Gaule qu'on appelle la Gallia Comata, la Gaule chevelue. On pourrait revenir longtemps sur le latin et sur la traduction latine, les traductions latines qui vont être très importantes dans notre histoire à venir, vous allez voir. Mais en gros, la Gallia Comata, c'est une bonne partie de la France que nous avons aujourd'hui, fait désormais allégeance à César. Attention quand même. Il ne s'agit pas d'une armée d'occupation telle qu'on a pu la connaître pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a rien à voir. Ce sont des alliances qui sont passées avec les peuples. Et un peu comme on a vu dans l'émission avec Clovis, il ne s'agit pas d'un choc de culture. Il faut bien comprendre une chose, et c'est aussi extrêmement important. Les Gaulois de cette époque-là ne sont pas des sauvages. Les Gaulois ne voient pas arriver Rome comme la civilisation, le summum de la civilisation. Les Gaulois ne sucent pas des cailloux. Les Gaulois ne vivent pas dans des huttes ni dans des petits villages repliés sur eux-mêmes, comme on pourrait le voir dans Astérix. Au contraire, les Gaulois font énormément de commerce avec Rome et avec les Grecs. Les Gaulois sont extrêmement en avance technologiquement dans des tas de domaines, y compris dans l'armement. Les armes gauloises sont bien meilleures parfois que celles des Romains. Les glaives gaulois sont bien plus durs que ceux des Romains et beaucoup de Romains achètent leurs armes en Gaule parce que les Gaulois ont le savoir-faire de l'étain, le savoir-faire des métaux. Donc il faut vraiment voir les Gaulois comme une autre civilisation et si parfois les Romains les appellent barbares, bien vous savez pourquoi. Tout simplement parce qu'ils ne parlent pas latin, pas tous. Alors certes, beaucoup de Gaulois parlent latin et beaucoup de Gaulois vont entrer dans l'armée de César, on va le voir. Parce que la quatrième année, pendant l'hiver, à peine César est-il retourné de l'autre côté des Alpes, qu'il apprend qu'à nouveau des tribus de Germains ont traversé le Rhin. Alors il va se précipiter à nouveau à leur rencontre, il va retraverser le Rhin sur un pont de bateau construit, qu'il va construire en 10 jours. Et il va en profiter pour dévaster la Germanie et dissuader cette fois les peuples germains de s'en prendre à la Gaule. Vous voyez, il est en train de protéger son territoire. Cinquième année de guerre, maintenant on est à l'été 54, César débarque en Bretagne, ce qu'il appelle la Bretagne et ce que nous appelons aujourd'hui l'actuelle Angleterre. Il débarque avec 2 légions et 80 bateaux. Une légion, c'est 6000 hommes environ. 80 bateaux, puis une nouvelle fois avec 5 légions pour battre l'armée de Cassivellaunus. Il emmène avec lui ses alliés et ses vassaux gaulois, pardon, et parmi eux, parmi les alliés, parmi les vassaux, parmi ses soldats, parmi ses lieutenants, il y a un très jeune officier de cavalerie du nom de Vercingétorix. Après 4 ans de campagne, César peut croire la Gaule soumise. En fait, il n'en est rien. Comme je vous disais, il n'y a pas d'armée d'occupation proprement dite. Par contre, beaucoup de Romains vivent en Gaule. Pas de soldats, mais beaucoup de marchands, puisqu'ils font des affaires avec les Gaulois. Or, le feu couve sous la cendre. C'est ainsi que du côté d'Orléans, les Carnutes tuent le roi que leur avait donné César. Une légion romaine doit les rappeler à l'ordre, mais il y a plus grave. Un petit village gaulois résiste encore et toujours à l'occupant. Alors évidemment, son chef ne s'appelle pas Abraracoursix, mais Ambiorix. En fait, il est chef des Éburons de Tongres, en Belgique, et il va s'associer avec un autre chef, celui des Trévires, et en plein hiver, il va détruire une légion romaine et assiéger directement le camp de Quintus Cicéron, le frère du célèbre orateur, hein, du même nom. César va secourir son lieutenant et saccager le pays des Éburons. Vous voyez, on a quand même des révoltes, on a quand même des moments forts, des temps forts, des moments moment de réaction parmi ces Gaulois. La paix est donc sans cesse remise en cause. César n'a pas le temps de s'occuper de ses affaires romaines. Et il va être obligé de lever jusqu'à un total de 10 légions. Et il n'en finit pas d'essayer d'éteindre les foyers d'insoumission. Et pour ne rien arranger, évidemment, il apprend, encore une fois, comme la nature a horreur du vide, eh bien, il se passe des choses du côté du triumvirat, puisque finalement, chacun veut être chef à la place des autres. Or, dans le même temps, Crassus, l'un des triumvirs, a trouvé la mort à Carès, contre les Parthes. Et forcément, Pompée, le troisième, a été élu seul consul, sans collègue. Et ce fait sans précédent met donc fin au triumvirat. C'est pas neutre ce moment-là, parce que César, s'il veut continuer à avoir un avenir à Rome, est obligé de laisser la Gaule et de filer le plus vite possible du côté de l'Italie pour s'occuper de ses affaires politiques. Or, apprenant ça, encore une fois, de l'autre côté, il va se passer des choses. Excité par toutes ces circonstances favorables, si vous voulez, encore une fois, la nature a horreur du vide. Eh bien, ils vont échafauder des projets, les Gaulois, des projets de soulèvement. Et ça va faire tache d'huile, et on va offrir des récompenses à ceux qui vont commencer la guerre. La première chose, le plan numéro 1, c'est empêcher César de rejoindre son armée, c'est empêcher César de revenir en Gaule. C'est encore Orléans, Kenaboum, qui va faire les frais en premier parce que les citoyens romains qui restaient vivre sur place, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien sont massacrés. Toutes les cités apprennent ce fait d'armes extrêmement rapidement et c'est à ce moment-là qu'apparaît un jeune entre guillemets, Arverne très puissant, Vercingétorix. Jeune, en fait, dans le latin de César, il est écrit « adolescens » et « adolescens » ne veut pas dire « adolescent » en français, ça veut simplement dire qu'il n'a pas réalisé son cursus honorum, c'est-à-dire ses charges politiques, c'est-à-dire qu'il n'a pas 30 ans. Il n'a pas encore 30 ans. Vercingétorix, que l'on dirait en celte « werkinugetorix », pourrait vouloir dire « where », ce serait super, sûr. Kingues, c'est le guerrier, le héros. Rix, c'est le roi qu'on va garder. C'est, en gros, Vercingétorix voudrait dire le roi suprême des guerriers. On va y revenir parce que ça aussi, c'est très important. Alors, dès qu'on apprend, dès que les peuples apprennent l'entrée en lice du roi suprême des guerriers, c'est le ralliement quasi général. Vous avez les Arvernes, évidemment, l'Auvergne, puisqu'il est Arverne, Vercingétorix. Donc les Arvernes, c'est l'Auvergne. Les Sénons, le Perche, les Parisis, la Seine-Saint-Denis, les Pictons, le Poitou-Charentes, les Caducs, le Lot, les Turons, la Touraine, les Aulerques, Lyon et le Maine, les Lémovis, le Limousin, les Andes, le Maine-et-Loire, les Bituriges, le Berry, plus tous les peuples qui bordent l'océan, c'est-à-dire la plus grande partie des Gaules. La plus grande partie, plus de la moitié des peuples importants de la Gaule. Et le premier acte stratégique de Vercingétorix, c'est envahir la Provincia, la province romaine, la Narbonnaise. C'est en gros aller porter la guerre directement chez l'ennemi. Vercingétorix va envoyer un de ses lieutenants, Lucterios, qui va réussir lui aussi à rallier les Rutènes, les Nitiobriges, les Gabales. Alors je vous passe à chaque fois le nom de ces pays parce que à chaque fois on retrouve dans les noms des villes le nom de ces pays-là. En tout cas, c'est les pays les plus proches de la Provincia, ceux qui cernent. Et la Provincia donc est cernée. Et il va marcher sur la Narbonnaise, il va marcher sur Narbonne, mais se retirer juste avant, devant les défenses mises au point à l'avance par César. Et surtout, il ne veut pas risquer trop d'hommes. Il ne faut pas, en gros, gâcher tout de suite ses atouts, si vous préférez. César, apprenant ça, ne peut pas faire autrement, puisque c'est une sorte de soulèvement général. Il va franchir les Cévennes. On ne l'attendait pas. Il réussit à passer et se rendre chez les Helviens, en Ardèche, à côté des Arvernes. C'est le début, si vous voulez, d'un combat que je nommerais un combat de titans entre deux fantastiques stratèges, et je pèse mes mots. César a donc réussi à rejoindre ses légions et dans le même temps, Vercingétorix, lui, va mettre le siège devant Gergovie. Il veut montrer aux cités, aux autres cités, que César ne les protège pas, ou en tout cas pas si bien que ça. Il y a donc un risque pour César de soulèvement général de tous ses efforts depuis des années en Gaule. Or, on est au début de l'hiver et malgré tout, alors que normalement on ne combat pas l'hiver, il est impossible de se rendre d'un point à un autre, les chemins sont difficilement praticables, les routes sont difficilement praticables, il faut penser qu'il y a aussi des routes quand même en Gaule, que Rome n'a pas apporté les routes, il y en avait déjà et d'importantes dans ces pays-là. Eh bien, César, malgré tout, va prendre le risque de bouger. Ça aussi, quand je vous dis que c'est un combat de stratège, c'est exactement ça, c'est un combat d'échec permanent. Il va prendre les villes d'Orléans, la ville d'Orléans, et marcher sur le Berry, chez les Bituriges. Vercingétorix est obligé de lever le siège de Gergovie et va foncer vers César. Les deux cavaleries vont se rencontrer pour la première fois. La cavalerie précède l'armée, hein. Et les Romains commencent à plier, et c'est la première fois que les Romains ont le dessous. Seulement César a fait donner la charge de 600 cavaliers germains. Elle va s'avérer capitale, cette cavalerie, dans la lutte, je disais, donc entre les deux hommes, parce que les Gaulois ne peuvent pas soutenir la charge des Germains. Les Germains sont de fantastiques cavaliers qui réussissent à combattre avec une énergie absolument farouche jusqu'à ce que mort s'en suive, on pourrait presque dire. Et les Gaulois ne peuvent pas soutenir cette charge et vont se replier avec de très lourdes pertes. Vercingétorix, comprenant ça, va devoir changer de tactique. Et dans le même temps, César va marcher, lui, sur Avaricum, c'est Bourges, la plus grande place forte des Bituriges, avec l'espoir que cette prise pourrait terminer le soulèvement de ce pays, un pays capital, les Bituriges, parce qu'il est un des liens, et surtout très proche des Auvergnats, des Arvernes. Alors que se passe-t-il à ce moment-là ? Vercingétorix réunit tous les chefs de guerre et il leur dit, alors nous n'avons pas ces paroles, hein, c'est César qui nous les rapporte, ce qui veut dire qu'il était au courant, soit en temps réel, ce qui ne me semble pas forcément juste à 100%, ou en tout cas très peu de temps après quand il a écrit ses commentaires. Et il dit les choses suivantes. En gros, le combat traditionnel ne fonctionne pas. Nous allons couper les vivres et les fourrages aux Romains. Nous allons pratiquer une guerre de harcèlement. Nous allons obliger César à rentrer chez lui. Parce qu'il faut bien imaginer que cette armée de César, près de 60 000 hommes, c'est énorme, et donc ils ont besoin de se ravitailler, tant pour les hommes que pour les bêtes. C'est l'unanimité de ce plan. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien ça veut dire que c'est la politique de la terre brûlée, tout simplement. Couper les vivres au sens propre du terme, couper l'herbe sous le pied, c'est ça, c'est la politique de la terre brûlée, empêcher l'armée qui est en place de se ravitailler, encore une fois, tant en hommes que pour les bêtes, tant en fourrage qu'en nourriture pour les humains. Ça veut dire donc brûler les villes. Et ce sont donc plus de 20 villes, 20 cités qui sont brûlées chez les Bituriges, et on fait de même dans d'autres pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait, quand vous réfléchissez bien, vous mettez le feu à votre propre maison, vous mettez le feu à votre histoire, vous mettez le feu à tout ce que vous avez, tant dans les champs que la maison, que les fourrages, que tout ça. Regardez un petit peu aujourd'hui les réactions des populations lors de la terrible tragédie de la tempête Xynthia, et voyez que quand on est obligé, quand on force les gens à quitter leur domicile, c'est un déchirement, on le comprend. Imaginez que vous mettez le feu vous-même à votre propre maison. Voilà ce que ça veut dire. Mais quid d'Avaricum ? Quid de la plus grosse ville, la plus grosse cité ? Les Bituriges vont supplier Vercingétorix, vont se jeter à genoux, on se jette beaucoup aux genoux, au pied des gens dans la guerre des Gaules, vous verrez, ça doit rappeler beaucoup de souvenirs à certains, la guerre des Gaules, soit en latin, soit dans les cours d'histoire, soit de bons souvenirs, soit de mauvais souvenirs, ça va dépendre. En tout cas, Vercingétorix cède. Il place cependant les meilleurs hommes, ses meilleurs hommes. En gros, il dit « Ok, on ne va pas brûler Avaricum, très bien, on est d'accord. Par contre, pour défendre la cité, qui est quand même la plus grosse cité de ce pays, nous allons y placer nos meilleurs hommes pour la défendre. » En effet, l'idée qu'il a à ce moment-là, c'est pourquoi ne pas fixer César entre deux armées. Obliger César à assiéger la ville d'Avaricum, la défendre avec les meilleurs hommes qui vont la défendre le plus longtemps et le mieux possible. Pendant ce temps-là, on va mettre le plus gros de l'armée, si vous voulez, derrière les troupes de César, qui sera pris entre les deux et qui n'aura pas d'autre choix que d'être écrasé. Vercingétorix est en contact constant avec les assiégés à partir de ce moment-là et il va transmettre en temps réel ses volontés. Pendant ce temps-là, évidemment, son armée tombait sur les Romains qui allaient chercher à droite à gauche du fourrage, de quoi se nourrir. Et c'est ça cette politique de terre brûlée et de harcèlement, c'est-à-dire que dès que les Romains sortent pour aller chercher à manger, eh bien une cavalerie leur tombe dessus et les tue et les empêche de se nourrir. Ce qui fait que les Romains étaient de plus en plus mal, mais continuaient quand même leurs travaux de terrassement, de siège et de construction des tours face à Avaricum. Mais dans le même temps, l'armée de Vercingétorix resserrait l'étau en rapprochant son campement, lentement mais sûrement, de l'armée de César. César avait des espions. On le voit puisqu'ils ont su comment, ce que Vercingétorix avait dit à Bibracte. Et ils ont fait leur travail en lui apprenant que Vercingétorix était parti lui-même avec la troupe qui allait tendre une embuscade. Je vous raconte ça parce que c'est important pour quand on va aborder Alésia. Tous ces détails sont extrêmement importants pour aborder Alésia plus tard. Et César, apprenant que Vercingétorix a quitté le campement, va jouer un coup de poker. Il va tenter un coup de poker. Il se dit, eh bien, très bien, puisque le chef est parti, on va tenter de prendre le camp des Gaulois. Et il va partir avec une petite armée, César. Il va lui aussi tenter d'entrer dans le camp, mais les Gaulois vont se défendre. Et cette tentative va se retrouver vaine. Mais à son retour, Vercingétorix est accusé de trahison. Imaginez les Gaulois. Notre chef s'en va, et peu de temps après, Vercingétorix arrive avec une armée pour essayer de nous assaillir. En gros, ils lui disent, puisque tu peux pas par les armes obtenir le pays tout entier, peut-être que tu aurais préféré l'obtenir par César. Oui, on est quand même à un point de rupture de part et d'autre. Hein. D'un côté, quand même, les Romains sont affamés, et de l'autre, les Gaulois sont un peu sur les nerfs. On est à un point de rupture, et Vercingétorix réussit à leur faire rendre raison, mais en leur disant que la guerre est en train d'être gagnée, que César ne gagne plus aussi facilement, en tout cas, que César n'avance plus, et que César est bloqué. La défense d'Avaricum a été héroïque. On va passer les détails. Hein. La défense a été héroïque, mais à la fin, Vercingétorix est obligé de lever le camp, est obligé d'ordonner de laisser la ville aux troupes de César, la ville qui a été prise et massacrée, bien sûr. Il a préféré perdre cette bataille, Vercingétorix. Il a perdu, en effet, à Avaricum, mais il n'a pas perdu la guerre, loin de là. Et ça, les Gaulois l'ont bien compris, parce qu'il va y avoir un ralliement général, sans jeu de mots, un ralliement général à Vercingétorix à ce moment-là. Parce que toutes les cités vont comprendre que cette fois, quelque chose a changé. Et Vercingétorix, qui avait donc raison, qui a montré qu'on ne pouvait pas résister à un siège, les Gaulois ne sont pas équipés pour ça, ils ne savent pas faire la guerre comme ça, va exhorter les cités, les grandes villes, à retrancher leur camp. En gros, il faut faire des premières défenses avant la défense principale. Tout ça est d'une importance capitale pour la suite. C'est-à-dire que là, vous avez Vercingétorix qui dit, qui explique, qui quasiment ordonne à toutes les cités de se défendre et de construire des ouvrages pour renforcer les défenses naturelles. C'est-à-dire construire des murs, construire des fossés, etc. Cette information que je vous donne est capitale dans la bataille d'Alésia. César avait repris des forces, du coup, en entrant dans la ville, puisque là, il récupère à la fois des vivres et du fourrage. Mais il va diviser son armée en deux. Il va donner 4 légions à Labienus pour qu'il monte vers le nord et qu'il mate les Sénons et les Parisis. Il en garde 6 pour lui et il fonce vers Gergovie. Soit dit en passant, le site de Gergovie, aujourd'hui encore, est soumis à controverse. C'est comme quoi, vous voyez, l'histoire a encore des choses à raconter. Vercingétorix va lui non seulement compenser ses forces perdues à Avaricum, il va récupérer des hommes, évidemment par des ralliements, mais surtout, comme je disais tout à l'heure, il a accru son prestige de façon considérable. Son stratagème commence à payer, sa stratégie commence à fonctionner. Et ça se voit. Le fait d'avoir fait retrancher les fortifications fait reculer César à Gergovie pour la première fois. L'assaut romain est un échec. Alors, Vercingétorix ne gagne pas à Gergovie. Si vous voulez, il y a match nul, on dirait dans le sport. Or, ce qui est très important, c'est que César est obligé de reculer. Autre chose importante, Vercingétorix ne va pas lui courir après. Il ne le poursuit pas. Il a d'autres projets. Pourtant, César va essayer de le provoquer. Il le dit lui-même. Il va essayer de provoquer un combat en rase campagne. Mais Vercingétorix et ses troupes ne bougent pas. Elles restent cantonnées là où elles sont. Je vous rappelle la tactique. Terre brûlée, harcèlement. Mais surtout, pas de combat. Pas de combat d'armée face à armée. Je vous rappelle que Vercingétorix a été dans l'armée de César et qu'il a appris les techniques romaines. César a perdu à Gergovie non seulement des troupes, mais il a surtout perdu une chose extrêmement importante et je dirais même vitale pour notre histoire. il a perdu la confiance des Éduins, il a perdu son alliance avec les Éduins. Il doit maintenant, les Éduins qui lui fournissaient de forts contingents, notamment des contingents de cavalerie. Il doit maintenant manœuvrer en pays quasiment totalement hostile. Donc je vous rappelle, il a perdu l'alliance avec les Éduins. Il franchit la Loire et il va chez les Sénons. Il est obligé de retrouver la Biennus. Là, il se sent maintenant complètement acculé. Avec 6 légions, il sait qu'il ne pourra pas résister longtemps. Il est obligé de rassembler son armée en entier. Ils arrivent à se réunir à Sens, du côté de Sens. Or, ils savent qu'ils sont obligés de repartir. Ils ne peuvent plus rien faire dans ce pays et ils doivent revenir en force. Seulement, voilà, ils ne peuvent plus repasser par le territoire des Éduins sans être obligés de combattre. Ils sont dans un état de fatigue extrême, ils sont dans un état de manque de nourriture importante, ils n'ont plus assez de nourriture pour nourrir les bêtes. Je vous parlais de 60 000 hommes, 60 000 combattants, entre 60 et 70 000 combattants. Or, il faut imaginer tout ce qu'il y a autour. Il faut imaginer l'intendance, il faut imaginer l'administration que vous pouvez avoir de la vie de tous les jours. Vous avez presque 100 000 hommes qui bougent comme ça, c'est énorme, c'est plus que le Stade de France réuni, qui bougent comme ça dans les campagnes. Il faut les nourrir, ces gens-là, il faut bien qu'ils trouvent à se reposer. Or, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont sans cesse harcelés dans l'arrière-garde, ils sont harcelés dès qu'ils essayent de sortir et de se diviser. Donc, ils restent ensemble, mais ils savent qu'ils doivent rentrer en Italie. Et ce moment-là, c'est le soulèvement général, on est en 52, avant notre ère. César fait venir, et ça, Vercingétorix le savait-il, c'est la grande question. César, qui n'a plus les Éduins, donc ne peut plus passer par là, mais il n'a plus non plus sa cavalerie. Il fait donc venir une cavalerie de Germains pour remplacer la défection des Éduins. On entre là dans le cœur de notre sujet. Il est donc obligé de rentrer, César, comme je vous l'ai dit, sa position n'est plus tenable en Gaule. Il doit donc passer chez les Séquanes par l'extrême frontière des Lingons. C'est le moment pour Vercingétorix. Comme je disais, il faut imaginer 60 000 hommes fatigués, obligés de se ravitailler sur place. Tandis que Vercingétorix continue la terre brûlée et on voit ses colonnes immenses se faire harceler en arrière-garde, etc. Vercingétorix veut porter l'estocade, les attaquer dans l'embarras de leur marche. Ils sont très lourds à bouger, bien sûr. Il fait mettre en ordre sa cavalerie. Encore une fois, sait-il que les Germains sont revenus ? Ça, c'est la grande question. Et il lance sa cavalerie contre la cavalerie de César. À nouveau, c'est la défaite. Il fait donc rentrer son armée, qu'il avait fait mettre en avant d'un camp fortifié, devant une citadelle, la citadelle d'Alésia. Alors écoutons César lui-même parler d'Alésia. Il dit, en français, « Cette place était située au sommet d'une montagne, dans une position si élevée qu'elle semblait ne pouvoir être prise que par un siège en règle. » César est donc fixé, à nouveau, comme à Avaricum. Mais cette fois, il va se méfier, il a compris. Là, si vous voulez, la tactique de Vercingétorix de le mettre dans un étau. Or, il n'a pas le choix là où il est. S'il avait eu le choix, je pense, très simplement, qu'il aurait changé de route. Or, la route pour aller se rendre chez les Helvètes, parce qu'en gros, c'est par là qu'il allait passer, eh bien, cette route passe par Alésia. Il n'a pas le choix. Il est donc fixé. Il va construire une double rangée, une pour assiéger, l'autre pour se protéger. Se protéger de quoi ? Eh bien, de la fantastique armée, de la fantastique armada, même si armada est un mot anachronique, levée par Vercingétorix avant d'entrer dans Alésia. Ce qui prouve d'ailleurs en passant qu'il ne s'est pas réfugié par hasard, d'où d'ailleurs les murs de 6 pieds de haut. Cette armée, cette fantastique armée, c'est plus de 240 000 hommes prêts à fondre sur les 60 000 Romains et les écraser dans un étau. Voilà la tactique de Vercingétorix, la même qu'à Avaricum, mais cette fois, il avait compris avant. Il a fait venir beaucoup plus d'hommes que l'armée dont il disposait. C'est la bataille ultime. Vercingétorix veut écraser César. César, lui, ne peut pas faire autrement. Il est acculé. Il est bloqué, comme je disais tout à l'heure, sur la seule route qui l'aurait mené à Genève pour récupérer ensuite l'Italie. et revenir en force par la suite. Vercingétorix lui ne veut pas qu'il revienne en force. Et là, il faut bien comprendre une chose. César fait faire un effort titanesque à ses légions. Il peut bénéficier des larges forêts alentour pour tous les besoins, des tours, des camps, etc. Forêts qui d'ailleurs, soit dit entre nous, manquent assez cruellement au site bourguignon, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, sur qui se refermera le piège d'Alésia? Bien sûr, vous connaissez la fin de l'histoire. Vercingétorix va faire sortir les non-combattants de la cité d'Alésia. Je passe rapidement quand même sur les petits détails. Il va y avoir des sorties ici et là, des combats que les Gaulois vont harceler, vont continuer d'harceler pendant les travaux. Je te parlais tout à l'heure de combats titanesques entre les deux stratèges que sont Vercingétorix et César. C'est un combat titanesque entre les deux armées aussi. C'est à ce moment-là qu'arrive l'armée de secours. On l'appelle l'armée de secours, commandée par Commios. Les Gaulois prennent position sur l'une des collines qui entourent la place, à 1000 pas maximum des Romains, dixit César. Avec la cavalerie, les Gaulois couvrent toute la plaine et ils tiennent des troupes de pied cachées sur des hauteurs. Si vous voulez une image, c'est un peu Fort Alamo ou le Seigneur des Anneaux, vous voyez, c'est un peu ce genre d'image qu'il faut avoir dans la tête. Vous avez d'un côté près de 300 000 hommes, de l'autre près de 70 000 hommes. Alésia surplombant l'ensemble du théâtre des opérations, Vercingétorix, lui, pouvait voir tout ce qui se passait, selon ses plans. Le coup, si vous voulez, était génial, c'était bien vu. Les cavaleries se lancèrent alors en premier. Une fois que tous les préparatifs étaient prêts, ce sont les cavaleries, bien sûr, encore une fois, qui se lancent en premier. De tous les côtés, les Romains étaient assaillis et paraient aux défenses les plus urgentes. D'un côté, de l'autre, ça partait dans tous les sens. Imaginez que ça descendait de toutes les collines. Ça descendait, ça venait, ça partait, ça revenait comme des vagues incessantes. L'assiégeant était devenu assiégé. De midi jusqu'au coucher du soleil, les vaillants Romains réussissaient à faire jeu égal quand, une fois encore, les Germains repoussèrent les Gaulois. Il y en a assez de ces Germains, vous me direz. Le lendemain, nouvelle attaque. Les Romains sont à ce moment-là au bord de l'asphyxie et ils reçoivent des renforts de corps alentour des hauteurs et nouvelle retraite des Gaulois. Et oui, parce que César avait, dans sa tactique d'encerclement, avait disposé des camps alentour et des corps d'armée, des légions, donc dans les camps retranchés. Alors on dit aujourd'hui le camp nord, le camp sud. Tout ça est important, c'est tout ça qui a été retrouvé par le LIDAR, justement, par la télédétection satellite au laser. Ce sont ces camps qui ont été retrouvés. Il y a un troisième assaut sur un des camps en hauteur. Les Gaulois vont se lancer en même temps de toutes parts. La trop grande étendue, imaginez cette étendue gigantesque de... savoir quand même que la cité d'Alésia, la cité des Mandubiens, contient plus de 80 000 hommes, les plus de 80 000 hommes de Vercingétorix. C'est une cité gigantesque sur un pic rocheux gigantesque également. Donc César est obligé d'entourer tout ça. Pendant ce temps-là, il est entouré par une armée de 240 000 hommes. C'est gigantesque, un gigantesque théâtre d'opération. Et l'étendue des fortifications, eh bien, empêche les Romains d'en garder tous les points. Un peu comme beaucoup plus tard, le fameux Limes. Le grand mur romain ne pourra pas résister aux assauts de tous les barbares venus de l'extérieur. Eh bien, les Romains sont obligés de céder à un endroit, à un autre. Les forces supérieures sont sur le point de tomber. Les armes et les forces commencent à leur manquer. Ils n'en peuvent plus, ils défendent. La défense quand même est héroïque au niveau romain. Ça, on ne peut pas mettre ça de côté. La défense romaine est incroyablement héroïque. Ils font face, ils essayent, mais tout leur manque. La force, évidemment, de quoi manger, la nourriture, les armes bien sûr. Et Labienus, le lieutenant de César, est envoyé en renfort, puis ensuite Brutus, puis Fabius, et enfin César lui-même entre dans la bataille. C'est la fin, on arrive au bout. Vercingétorix a réussi, il suffit donc que l'armée, les hommes, si vous voulez, à pied, les Gaulois, dévalent les collines pour tomber sur les Romains et ça serait fini. Or, César envoie ses dernières cohortes, une cohorte c'est 600 hommes, il faut 10 cohortes, hein, donc dans une légion. Il y a 30 9 cohortes exactement, près de 20 000 hommes, les derniers 20 000 hommes, le dernier carré si vous voulez. César envoie ses hommes avec lui et Labienus. Ce sont ses dernières chances. La cavalerie part en même temps, les derniers Germains. Or, encore une fois, ces cavaliers donneront la victoire aux Romains. Pourquoi ? Eh bien, parce que les fantassins gaulois, ne sont pas entrés dans la bataille. Vercingétorix a été trahi. Il a perdu alors qu'il était à deux doigts de l'emporter. Quand je dis à deux doigts, il était vraiment à deux doigts de l'emporter. D'abord, vous comprenez, hein, 300 000 hommes d'un côté, 70 000 de l'autre. Évidemment, il n'y a pas photo, comme on dit vulgairement. Ses affaires terminées, César va partir pour le pays des Édouins pour recevoir leur soumission. C'est très important, les fameux frères de Rome doivent se soumettre. C'en est fini de la bataille d'Alésia, c'en est fini quasiment de la guerre des Gaules. Alors, nous venons de voir l'histoire de la bataille, ce qui s'est passé historiquement. Seulement, vous avez vu, j'ai intitulé cette émission « Les batailles d'Alésia ». Parce que, comme je vous l'ai dit au début, les historiens se divisent quant à la localisation même de cette cité. Alors quand on cherche quelque chose en histoire, il y a deux façons de procéder, deux méthodes. Soit on décide d'un lieu parce que beaucoup de données semblent correspondre, ou alors on part des textes et des faits et on cherche ce qui correspondrait le mieux. On procède en quelque sorte par élimination, on fait ce qui pourrait s'appeler un portrait robot. Alors pour nous guider, nous avons la chance d'avoir au téléphone Franck Ferrand. Est-il besoin de le présenter ? Historien, romancier et chroniqueur conteur sur Europe 1. Bonjour Franck Ferrand.
Bonjour Richard, bonjour à tous.
Alors, la première question que je voudrais vous poser, j'aimerais que vous nous décriviez l'Alésia des Mandubiens telle qu'on la lit dans les textes, dans tous les textes, alors César, Diodore, etc., avant d'entrer dans le vif du sujet, même si justement c'est le sujet.
C'est César qui, dans le livre 7 du Bello Gallico, parle de l'Alésia Mandubiorum, l'Alésia des Mandubiens. C'est ce qu'on appelle un apax, c'est-à-dire que c'est un terme qui n'intervient qu'une fois dans toute la littérature antique. Donc, évidemment, il faut faire confiance à César pour savoir à quoi on a affaire. Alors, effectivement, Diodore de Sicile nous donne un certain nombre d'éléments, Dion Cassius et Plutarque aussi. Mais ce sont des éléments secondaires et qui viennent après César. C'est donc bien à Jules César lui-même qu'il faut se référer si l'on veut savoir à quoi ça ressemblait. Et, chance pour nous, César nous donne d'Alésia une description extrêmement précise, d'une précision toute militaire. Il nous décrit Alésia comme une cité qui se trouve, un oppidum, hein, dit-il, au sommet d'une haute colline, une colline qui elle-même est entourée d'autres collines dont les sommets sont relativement rapprochés de la colline centrale. Il nous dit que de deux côtés, la colline en question était, les racines de la colline étaient baignées par des rivières, hein, il dit bien duo flumina, de rivières. Donc, on a une description qui est relativement concrète. À partir de là, effectivement, il est possible de comparer la description de César à un certain nombre de sites de l'Est de la France. Et il se trouve qu'en 1961, un grand archéologue qui s'appelait André Berthier a découvert un site qui correspond trait pour trait à la description que donne César. Le problème, c'est que ce site n'est pas du tout en Bourgogne. Il est bien loin, il est à 140 km du mont Auxois, près d'Alise-Sainte-Reine en Bourgogne. Il se trouve en plein Jura. C'est sur les communes de Siam et de Chaux-des-Crotenay, ce qui nous oblige évidemment à revoir complètement la vision qu'on avait et de cette bataille et d'une façon plus générale de la guerre des Gaules.
Comme je disais tout à l'heure, il est parti lui des textes et des faits pour retrouver, il l'a pas trouvé par hasard.
Non, bien sûr. Vous savez, la méthode du portrait robot à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure a été établie par André Berthier à l'époque où, archéologue en Afrique du Nord, il avait fouillé Tidis et il avait remis en cause un certain nombre des assertions de Salluste. En l'occurrence, André Berthier a pris tous les éléments topographiques du livre 7 de la guerre des Gaules, il les a tous synthétisés, et il en a fait effectivement un portrait robot. Et à partir de là, eh bien, il a trouvé tout simplement le site réel et qui correspond. Ce qui est fabuleux, c'est que plus de 2000 ans plus tard, ce site n'a quasiment pas changé. Nous le retrouvons quasiment vierge d'intervention humaine, tel que César et tel que Vercingétorix l'ont connu.
Alors justement, je disais tout à l'heure que Vercingétorix avait une réelle stratégie. Tout était vu à l'avance. Et du coup, la découverte de Siam Chaud des Crotenay, vous le disiez il y a quelques instants, nous oblige à revoir les choses.
Mais bien sûr. Vous savez, pendant très longtemps, on a considéré Vercingétorix un peu comme un débutant, comme quelqu'un qui n'aurait eu que des notions assez vagues de la stratégie et qui, dans cette confrontation avec les légions de César, se serait un peu laissé promener, si je puis dire. On avait l'image d'un génie militaire, César, face à un chef arverne, Vercingétorix, qui n'était pas à la hauteur. Et c'est vrai que si vous imaginez que Vercingétorix installe l'ensemble des forces dont il dispose sur l'espèce de taupinière du mont Auxois en Côte d'Or, effectivement, il faut soit qu'il soit complètement stupide, soit qu'il manque singulièrement d'expérience. En vérité, Vercingétorix était lui aussi un génie militaire. Et si vous remettez les événements dans leur véritable contexte, si vous allez à l'endroit même où se sont passés le siège et la bataille, alors vous découvrez qu'il avait piégé César. Il avait réussi à attirer les légions romaines dans une sorte de goulet d'étranglement en pleine montagne, en plein Jura. Il les a fixés, il y a ce qu'on pourrait appeler en stratégie un abcès de fixation. Il les a collés et les a obligés à monter un siège devant ce qui est un oppidum formidable, naturellement défendu, donc l'Alésia des Monts du Bien. Et son idée était, ayant immobilisé César, d'écraser César avec un énorme marteau contre l'enclume d'Alésia. Le marteau, c'était les armées de renfort sollicitées auprès de tous les chefs de la Gaule. N'oubliez pas que Vercingétorix se trouve à Alésia avec 80 000 fantassins, 12 à 15 000 cavaliers, mais qu'il fait venir en renfort quelques 8 000 cavaliers et 240 000 fantassins. Les pauvres 65 000 légionnaires de César au milieu de tout ça auraient dû être complètement laminés. Ce qui fait qu'in fine, mais vraiment in extremis, si vous me passez ces petites expressions latines, César a pu s'en sortir, c'est qu'il y a eu une trahison terrible, une trahison totale des chefs de l'armée de renfort gauloise, des chefs qui étaient tous des Éduins, des Bourguignons si vous voulez, et qui n'avaient pas envie de donner à l'arverne Vercingétorix le triomphe qu'il méritait.
Je disais en tout début d'émission que les Éduins et les Germains finalement ont joué un rôle assez énorme dans cette histoire.
Les Éduins auront depuis le début été l'élément qui fait basculer la victoire dans un camp ou dans l'autre. Dès que les Éduins ont vu que César était en difficulté à Gergovie, ils ont trahi leur alliance avec Rome. Mais il ne faut pas oublier que César est resté 6 semaines sur le plateau de Langres au début de l'été 52 avant Jésus-Christ, et que pendant toute cette période-là, il a eu le temps effectivement de mener des alliances, probablement en tout cas des alliances secrètes, avec les chefs éduins, ce qui pourrait expliquer leur incroyable retournement à Alésia. Quant aux Germains, vous avez raison, c'est grâce à la cavalerie germaine que César a réussi à faire face aux Gaulois, notamment lors du premier assaut de cavalerie, dans la fameuse plaine de cavalerie qui se trouve à moins d'une journée de marche d'Alésia. Et c'est également grâce à ces cavaliers voltigeurs, vous savez que les Germains sont à deux sur chaque cheval, c'est grâce à ces cavaliers germains qu'il va réussir à l'emporter sur les Gaulois lors des deux sorties de cavalerie que Vercingétorix mène dans la plaine des 3000 pas.
Alors, je ne sais pas si on arrivera à convaincre tout le monde ici, il ne s'agissait pas non plus de convaincre, mais de voir tout de même qu'avec tout ce que vous nous dites, Alise ne peut pas être Alésia. Parce que d'abord, cette fameuse plaine, on ne la trouve pas vraiment à une journée de marche.
Vous savez, je me suis amusé, et j'en renvoie les auditeurs à un ouvrage qui s'appelle L'Histoire interdite, et puis à de nombreuses émissions et débats que j'ai pu faire sur le sujet.
J'allais en parler.
Je me suis amusé à relever 71 points de différence entre les descriptions que nous donne César et le site d'Alice Saint-Reine. Quand je dis « je », évidemment, il y a énormément de gens qui ont travaillé bien avant moi et qui l'ont fait, qui y ont consacré une grande partie de leur vie, le professeur André Berthier lui-même, mais tous ses continuateurs, au premier rang desquels, évidemment, Daniel Porte, qui aujourd'hui dirige l'association Alésia André Berthier. Tous ces gens ont ont mis en évidence les preuves qui permettent d'affirmer aujourd'hui qu'Alésia n'a pas eu lieu en Bourgogne, mais bien dans le Jura. Et lorsqu'on voit les dizaines et les dizaines de millions d'euros de l'argent public qui aujourd'hui sont investis par le Conseil général de Côte d'Or en particulier dans cette espèce de muséoparc Alésia qui doit ouvrir sur le site d'Alice Sainte-Reine, on ne peut que s'interroger sur le sérieux des études qui ont préludé à ces travaux.
Je voudrais relever un fait quand même, vous poser une question, parce que ça, je le vois beaucoup dans les forums, et beaucoup de gens se battent sur cette notion-là. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'Alice Sainte-Reine a bien connu des sièges romains ?
Mais évidemment, lorsqu'on est à Alice Sainte-Reine, il apparaît comme une évidence que des vestiges de sièges militaires se trouvent là sous nos yeux. Vous connaissez les photos aériennes qu'a prises René Goguet pendant longtemps. On sait, et c'est le professeur Joël Le Gall lui-même qui le dit, qu'en fait, le site même d'Alice Sainte-Reine a connu un siège en 21 de notre ère. C'était le général Romain Silius qui a mené ce siège. Septime Sévère également a détruit l'endroit en 196-197 de notre ère. Ça a été reconstruit au IIIe siècle et il y a eu de nouveau deux grandes campagnes en 257, en 275. Donc c'est normal que lorsqu'on fouille aujourd'hui aux alentours du Mont Auxois, on trouve des vestiges de sièges militaires. La question n'est pas de se demander s'il y a des tranchées, des aguerres et des fossés. La question est de se demander si c'est bien les vestiges, si ce sont là les vestiges d'Alésia. Et d'évidence, les textes nous disent que non. Or, lorsque vous allez dans le Jura, lorsque vous prenez des photos aériennes de Siam et Chaudes-et-Crotenay, et mieux que ça, lorsqu'aujourd'hui vous utilisez les toutes dernières techniques, je pense notamment à la technologie du LIDAR, pour observer les vestiges éventuels qui pourraient s'y trouver, vous vous rendez compte que ceux qui apparaissent de façon criante sur tous ces clichés sont des vestiges parfaitement conformes à toutes les descriptions que donnent non seulement César, mais tous ses continuateurs, et je pense notamment à Diodore de Sicile et à Plutarque.
Alors j'ai commencé d'ailleurs l'émission en parlant du LIDAR, parce qu'on a eu cette question sur Facebook. Où est-ce qu'on pourra, ou quand est-ce qu'on pourra trouver ces photos, disponibles ?
Pas. Il y a une association qui s'appelle l'ABCDage, en l'occurrence, hein, c'est l'association de Daniel Porte dont je parlais tout à l'heure, qui a mené cette campagne à titre privé, sans aucun concours ni financement public, quand je dis financer ça, ça coûte très cher, ça coûte des dizaines de milliers d'euros, il a fallu que les membres de ces associations, les adhérents, se saignent aux quatre veines pour arriver à faire ça, et la moindre des choses, c'est que ces gens soient les maîtres de la diffusion des clichés en question, ils attendent le bon moment et le bon endroit. Ce sont des éléments extrêmement probants, ce sont des arguments majeurs, massus dont ils disposent et qui sortiront lorsqu'on leur donnera enfin la tribune que mérite le sérieux de leurs travaux.
Merci Franck. Une dernière petite question. À votre avis, est-ce que c'est impossible, inimaginable de penser que certains peuvent dire « je me suis trompé » ?
Alors je crois que il faut laisser le temps faire son œuvre. Vous savez, évidemment, lorsqu'un professeur ou un archéologue ont consacré leur carrière entière à démontrer la validité d'un site, il est pour eux extrêmement difficile, voire impossible, de revenir en arrière et d'admettre devant des générations d'étudiants qu'ils ont commis une erreur et qu'ils n'étaient pas sur le bon endroit. Mais le temps fait son œuvre, les gens partent à la retraite un jour, et de nouveaux chercheurs arrivent, des archéologues prennent le relais. Et peu à peu, je suis extrêmement confiant dans cette vérité-là, peu à peu, la lumière se fait. Et vous verrez qu'on en reparlera, Richard, mais d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, il n'y aura quasiment plus personne en France pour croire encore à l'Alésia bourguignonne.
Mais écoutez, j'espère que vous aurez raison, on se reparlera à ce moment-là. Merci beaucoup, Franck Ferrand.
À bientôt, merci beaucoup.
Voilà donc l'histoire des batailles d'Alésia. Merci beaucoup à Franck Ferrand. Je rappelle votre émission Au cœur de l'histoire, du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. Votre ouvrage, L'Histoire interdite, que l'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Toutes les informations, tous les dossiers, tous les textes et un dossier extrêmement rempli sur la guerre des Gaules, des Bello Gallico, des commentaires de César sur la guerre des Gaules, vous les trouverez sur Hérodote.net bien sûr. N'hésitez pas à devenir ami sur Facebook où vous pourrez poser vos questions. Vous serez également au courant des prochaines émissions à venir. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir.